Chapitre 23. Bien qu'il eût l'esprit embrumé par la colère, Richard comprit quand même que Nietzsche avait une idée derrière la tête. Il n'aurait su dire laquelle, mais les avoir appelés, Victor et lui, par un nom de métier, était un signal évident. Par ce biais, elle leur demandait d'entrer dans un jeu dont elle comptait être l'animatrice et la maîtresse. Sans doute parce que les gens l'appelaient souvent Forgeron, Victor semblait ne pas avoir capté le message. Il voulut parler, mais Nietzsche lui flanqua une gifle magistrale.
« Silence, je n'ai rien à faire de tes excuses. »
Troublé, Victor recula d'un pas. Fort mécontent, il foudroya Nietzsche du regard, mais décida quand même d'attendre la suite. Voyant qu'il se tiendrait tranquille, Nietzsche se tourna vers Richard et lui braqua un index rageur sur la poitrine.
« Tu devras répondre de ton crime, charpentier. »
Même s'il ne voyait toujours pas où son ami voulait en venir, le sourcier hocha distraitement la tête. Craignant de saboter le plan de Nietzsche, il n'osa pas en faire davantage.
« Quelle mouche t'a piqué ?»
cria l'ancienne maîtresse de la mort, l'air aussi terrifiant qu'à l'époque où elle méritait amplement ce surnom.
« Où as-tu pêché l'idée inacceptable que tu es libre d'agir comme il te chante dans un cas pareil ?»
Quelle réponse apporterait de l'eau au moulin de Nietzsche? Incapable de le deviner, Richard se contenta de hausser les épaules comme s'il était trop honteux pour se défendre.
« Il a sauvé ma fille !»
cria Jamila.
« L'espion allait l'égorger !»
Nietzsche se tourna vers l'aubergiste.
« Comment oses-tu te montrer si méprisante par rapport à ton prochain? De quel droit préjuges-tu de ses intentions et de ses sentiments? C'est le privilège exclusif du Créateur. « Serais-tu une voyante ? Bien sûr que non. Dans ce cas, comment sais-tu ce qu'aurait fait cet homme ? Tu crois que tes suppositions suffisaient à le condamner à mort ? Et même s'il avait agi comme tu le prévoyais, qui es-tu pour juger un être humain et statuer sur ses motivations ?»
Son étrange discours terminé, Nietzsche regarda de nouveau Richard.
« À la place de ce malheureux, qu'aurais-tu fait ? Son compagnon et lui ont été traînés dans cette écurie par une foule hostile. » On ne leur a pas dit de quoi ils étaient accusés, ni permis de s'excuser. Tu traites un homme comme un animal, et tu t'étonnes qu'il ait des réactions de bête fauve? Si nous agissons ainsi, comment espérer que Jagang le Juste nous donne une chance de nous racheter? Cet homme avait raison de craindre pour sa vie, car il était entouré de brutes sans cervelle. Je suis la femme du maire, et je ne tolérerai pas de tels comportements, c'est compris? Mon mari aurait le cœur brisé s'il savait ce que vous avez fait ce soir. En son absence, je m'assurerai que de pareils errements ne se reproduisent plus. Et maintenant rengaine cette épée. »
Commençant à comprendre où Nietzsche voulait en venir, Richard obéit sans protester. Dès qu'il eut relâché son arme, sa rage se volatilisa. Aussitôt ses genoux tremblèrent. Si justifié que fût son acte, il en allait ainsi chaque fois qu'il prenait une vie avec l'épée de vérité. Même pour la bonne cause, tuer restait une horrible expérience. Entrant dans le jeu de son ami, le sourcier baissa humblement la tête. Nietzsche se tourna vers la foule qui recula d'un pas comme un seul homme.
« Nous sommes des gens pacifiques. Avez-vous oublié votre devoir de compassion? Et que faites-vous de l'enseignement du Créateur ? Si nous continuons à nous comporter comme des bêtes, comment espérer que l'empereur nous accepte de nouveau dans les rangs de l'ordre impérial ?»
Personne ne protesta. À l'évidence, tous les citadins avaient compris que Nietzsche tentait un énorme bluff.
« La femme du maire n'acceptera pas que la violence aveugle prive nos enfants d'un avenir radieux. »
Une jeune femme avança, les poings sur les hanches, et lança
« Mais ces hommes !» « Nous ne devons jamais oublier l'amour du prochain !»
cria Nietzsche, coupant la parole à la citadine.
« Nos égoïstes petits désirs ne comptent pas !»
Elle coula un regard discret à Victor, qui comprit le message et tira la femme en arrière afin qu'elle ne gâche pas la représentation.
« Notre devoir est de guider nos semblables, pas de les décapiter. Ce soir, un homme a été lâchement assassiné. » Le tribunal du peuple étudiera cette affaire et se prononcera sur le sort du charpentier, En attendant, je demande qu'il soit incarcéré et étroitement surveillé. Au nom du maire dont j'exerce l'autorité, je refuse que le second prisonnier subisse un sort injuste. Je sais que mon époux aurait aimé statuer sur cette affaire, mais je suis sûr qu'il ne voudrait pas forcer ces malheureux à attendre sa libération jusqu'à demain. Les injustices doivent être réparées sans attendre.
Nietzsche désigna deux gardes.
Vous allez conduire ce brave homme hors de la ville et vous le laisserez partir en paix. Le charpentier, lui, attendra son procès dans une cellule obscure et humide où il aura tout loisir de réfléchir à sa perversité.
Vous faites montre d'une grande sagesse, madame, dit Victor. Votre époux sera fier de vous, je n'en doute pas.
Le forgeron s'étant incliné devant elle, Nietzsche foudroya un moment du regard le sommet de son crâne, puis elle alla se camper devant le second prisonnier, le dévisagea avec bienveillance et le gratifia d'une révérence. Richard remarqua que le chemisier de Nietzsche, comme par hasard, était à demi délacé.
L'espion ne loupa pas non plus ce détail, et il profita de l'occasion pour se rincer abondamment l'œil. Quand Nietzsche se releva, il fallut un moment au type pour consentir à la regarder dans les yeux. J'espère que vous accepterez nos excuses, messire. Nous vous avons maltraité, ce n'est pas ainsi qu'on nous a appris à agir avec nos frères humains.
Le type fit une grimace qui pouvait passer pour un sourire plein d'indulgence.
Je comprends que vous soyez nerveux avec cette insurrection contre l'ordre impérial et...
Une insurrection ?
Coupa Nietzsche.
Foutaise ! C'était un lamentable malentendu, rien de plus. Certains travailleurs, comme ce misérable charpentier, exigeaient d'être mieux payés et d'avoir divers privilèges. L'affaire se limite à ça. Mais pendant un moment, comme mon mari vous l'expliquerait, les choses ont dérapé. Comme cette nuit où un fils innocent du Créateur a perdu la vie injustement. Mais nous nous efforçons de remettre de l'ordre dans nos affaires.
L'espion dévisagea longuement Nietzsche.
C'est la position de tous les citadins ?
Presque tous, oui. Et c'est la profonde conviction du maire, mon époux. Si vous saviez combien il a travaillé pour mater les fauteurs de troubles et les émeutiers professionnels. Avec des représentants du peuple, il n'a pas ménagé sa peine pour remettre ses réactionnaires sur le droit chemin. Ces gens agissaient sans tenir compte du bien commun. Pour leur montrer leur erreur, mon mari a fait traduire en justice les meneurs et un tribunal populaire les a durement punis. La plupart se sont repentis. Bien entendu, le maire se charge aussi de rééduquer les révoltés qui ont agi davantage par bêtise que par méchanceté.
L'espion inclina brièvement la tête.
Madame, dites à votre mari qu'il est un parangon de sagesse et ajoutez qu'il a une épouse admirable qui sait se sacrifier pour le bien commun.
Ah, le bien commun, rien n'est plus important. Mon mari le répète sans cesse. Nos désirs et nos sentiments ne sont rien comparés aux besoins impérieux des masses. Le premier pas sur la voie de la sainteté, selon lui, est de renoncer à l'individualisme pour se concentrer sur l'amélioration de l'humanité. Personne n'a le droit de faire passer ses intérêts avant ceux de son prochain.
Comme c'est vrai !
S'exclama l'espion en baissant de nouveau les yeux sur le décolleté de son interlocutrice.
N'allez pas croire que je m'ennuie ici, mais je devrais peut-être y aller.
Et où allez-vous, justement ?
Demanda Nietzsche en tirant pudiquement sur les pans de son chemisier. L'homme releva les yeux.
Mon compagnon et moi nous dirigeons vers le sud, où nous avons tous les deux de la famille. Nous espérions trouver du travail là-bas. Je ne connaissais pas très bien le... défunt. On voyageait ensemble depuis quelques jours, voilà tout.
Avec ce qui vient d'arriver, mon mari vous conseillerait de repartir sur le champ, j'en suis sûr. Il reste encore des réactionnaires en ville. Ne prenons pas le risque de vivre une autre tragédie.
L'espion balaya l'assemblée d'un regard assassin. Ses yeux s'attardèrent sur Richard qui garda humblement la tête baissée.
Vous avez raison, madame. Veuillez remercier le maire de ne pas ménager ses efforts pour ramener les trublions sur le droit chemin. »
Nietzsche sourit d'aise, puis se tourna vers les deux gardes qu'elle avait un peu plus tôt chargés d'une mission.
« Assurez-vous que ce noble citoyen quitte notre ville sans que rien de fâcheux lui arrive. S'il le faut, faites-vous escorter par une vingtaine d'hommes. Faut-il vous rappeler que le maire et le conseil du peuple seraient fort marrés qu'il arrive malheur à notre ami? Il doit repartir en parfaite santé et continuer son chemin d'un pas allègre. »
Les hommes s'inclinèrent et marmonnèrent que les ordres seraient exécutés. Impressionné par leur performance d'acteur, Richard se souvint que vivre sous le joug de Jagang les avait habitués à la soumission. La petite foule regarda le prisonnier sortir avec ses protecteurs. Lorsque ce fut fait, personne ne parla avant un bon moment. Si l'espion avait l'oreille fine, mieux valait attendre qu'il soit très loin de là.
« Eh bien, » soupira Nietzsche, « j'espère qu'il retournera vers ses frères d'armes. S'il tombe dans le panneau, nous aurons semé une belle confusion dans les rangs ennemis. »
Il va s'empresser de rapporter les bonnes nouvelles à ses supérieurs. Avec un peu de chance, ces idiots croiront que l'affaire est dans le sac et nous pourrons leur réserver une sacrée surprise.
« Espérons, » dit simplement Nietzsche.
Quelques-uns des citadins encore présents émirent des commentaires enthousiastes sur la stratégie de l'ancienne maîtresse de la mort. De toute évidence, sa façon de désinformer l'ennemi leur plaisait beaucoup. Ayant eu leur compte d'émotion, d'autres personnes souhaitèrent bonne nuit à tout le monde et s'en furent.
« Désolé de vous avoir frappé, » dit Nietzsche en souriant à Victor.
« Aucun problème, » répondit le forgeron, « puisque c'était pour la bonne cause. »
L'air gêné, Nietzsche se tourna vers Richard, on eût dit qu'elle redoutait qu'il lui passe un savon.
Je voulais que ces soldats pensent qu'ils nous écrabouilleront sans problème. L'excès de confiance n'est jamais bon.
Tu ne me dis pas tout, grogna Richard.
Nietzsche regarda autour d'elle, puis s'approcha du sourcier et parla assez bas pour que lui seul entende.
« Tu m'as bien assuré que je pourrais vous rejoindre une fois les soudards de Jagang éliminés. »«
Exact, mais... »«
Eh bien, j'ai l'intention de vous retrouver très vite. »
Richard dévisagea un long moment son ami, puis il décida de lui laisser carte blanche en ce qui concernait la défense d'Alterang. Bien sûr, le plan tordu de Nietzsche l'inquiétait, mais il avait assez de soucis lui-même pour ne pas chercher à en savoir davantage. Il saisit les lacets du chemisier de la superbe blonde, tira dessus et referma le chemisier. Les poings sur les hanches, Nietzsche soutint son regard tout au long de l'opération.
« Merci, »
dit-elle quand ce fut terminé.
« Ce fichu truc a dû s'ouvrir dans le feu de l'action. »
Ignorant ce gros mensonge, Richard regarda autour de lui pour localiser Jamila. Les joues rouges et les yeux gonflés, l'aubergiste serrait dans ses bras la malheureuse petite fille.
« Comment va-t-elle ? » demanda le sourcier en approchant.
« Aussi bien que possible, seigneurial. Vous l'avez sauvée mille fois merci. »
Blottie dans les bras de sa mère, la gamine regardait Richard comme si elle risquait d'être sa prochaine victime. Elle l'avait vu commettre une telle horreur.
« Jamila, je suis content qu'elle soit indemne. »
Richard sourit à l'enfant, qui lui répondit d'un regard haineux. Nietzsche serra les bras de son ami pour le consoler, mais elle ne dit rien. Les citadins restants félicitèrent le sourcier d'avoir secouru la fillette. Tous semblaient avoir compris la manœuvre de Nietzsche, et quelques-uns ne furent pas avares de compliments sur cette ruse de guerre.
« Voilà qui devrait nous débarrasser des soudards !»
lança un homme. Richard doutait que l'idée de Nietzsche soit si simple. Ce qu'elle mijotait l'inquiétait, mais il ne pouvait rien faire. Un moment, il regarda les hommes qui emportaient le cadavre du premier espion. Sur un ordre d'Ishak, d'autres entreprirent de nettoyer le sol et les cloisons. L'odeur du sang énervant les chevaux, il fallait l'éliminer au plus vite. Les derniers citadins souhaitèrent bon voyage au seigneur Hall, puis s'en allèrent. Un peu plus tard, leur corvée accomplie, les nettoyeurs partirent à leur tour. Nietzsche, Kara, Ishak, Victor et Richard restèrent seuls dans l'écurie silencieuse.